Après ce moment merveilleux, ce moment, Seigneur, qui aura été une véritable bénédiction pour nous, après cette occasion, Seigneur, que nous venons d'avoir, occasion qui nous a permis de nous approcher du trône de la grâce sur lequel tu es assis, pour nous prosterner devant toi, de reconnaître en toi le seul et véritable Dieu, l'unique. C'est toi qui, par ta seule volonté, a appelé à la, Seigneur, à l'existence, ce qui n'existait pas encore. Quel bonheur pour nous, Seigneur, d'être là devant toi. Quel bonheur de t'avoir exprimé, Seigneur, les sentiments de nos cœurs, d'avoir proclamé avec nos paroles qui tu es. Seigneur, merci. Après ce moment, nous voulons, ô Dieu, nous asseoir avec humilité, mais avec confiance et assurance, nous asseoir à tes pieds et te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles ce matin. Merci de bénir ton serviteur, de faire de lui un simple outil entre tes mains pour l'édification, Seigneur, de ton peuple. Qu'il soit un simple outil, ô Dieu, entre tes mains, ô Dieu, pour la bénédiction de tous ceux qui sont dans ta maison ce matin, mais également de tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, via les médias classiques, mais aussi via les différents réseaux sociaux. Parle-nous, Seigneur, et dépose ta vie sur nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci à Dieu pour ce moment de louange et d'adoration. Nous allons sans plus tarder nous tourner vers la parole de Dieu et revenir sur notre thème, à savoir l'Église de Jésus-Christ, Bethel ou Bethaven. Question importantissime, question vitale, surtout dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, où l'ennemi a lancé et lance de plus en plus son armée contre l'Église, dans ce temps où l'ennemi, avec par toutes sortes d'artifices, de séduction et d'égarement, arrive à envoûter des églises, à jeter sur certaines assemblées la confusion, à transformer certaines assemblées en de véritables lieux, lieux où on adore l'homme, lieux de malédiction, lieux de tromperie, lieux où le mal prospère comme les lys de champ. Oui, dans ces temps, il est important à un certain moment de s'arrêter, d'examiner son église, son assemblée locale, d'examiner le lieu où on va pour adorer et de voir si la manière de fonctionner de cette assemblée, si la manière de se structurer, si les enseignements et les différentes doctrines qui y sont apportées reflètent, mes amis, en tout et pour tout, l'enseignement du Seigneur lui-même, ensuite l'enseignement des saints apôtres. D'où donc la pertinence d'un thème comme celui-ci, l'Église de Jésus, Bethel ou Bethaven. Nous allons relire notre texte, à savoir le premier, Matthieu 16, et puis ensuite nous relirons 1 Timothée 3, 14 à 15. Commençons avec notre texte de base, à savoir Matthieu 16, versets 13 à 18. Où il nous est dit, Jésus arrivé sur le territoire de Césarée et de Philippe, posa cette question à ses disciples, au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ce n'est pas ta puissance cérébrale, ton intelligence, tes capacités religieuses qui t'ont révélé cela, qui t'ont permis à comprendre cela, pas du tout. Ce ne sont pas tous ceux-là qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Petros, en grec, et que sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, les portes du Hadès, ne prévaudront pas contre elle. Et enfin, 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, où je t'écris ces choses avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Église de Jésus-Christ, Bethel ou Bethaven. Bethel, maison de Dieu. C'est ce que toute église, toute assemblée devrait et doit être. Un lieu qui reflète ce que Dieu est. Un lieu qui accueille la gloire de Dieu. Un lieu où la vie de l'Esprit coule en abondance. La maison de Dieu. Un lieu où les gens viennent pour adorer le Seigneur et non pas pour rencontrer un homme, quels que soient ses titres, quelle que soit sa position religieuse. Ou alors Bethaven, lieu ou maison de tromperie, maison du mal, maison de corruption, maison de néant, c'est-à-dire maison privée de la vie de l'esprit. Cela est important, frères et sœurs, comme je l'ai souligné. Important de savoir si notre Église, le centre évangélique francophone de la Borne, est vraiment le Bethel du Dieu vivant, la maison de Dieu, celle dont il est question, celle qui nous est révélée, et nous l'avons lu dans 1 Timothée chapitre 3, qui nous est révélée comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Ou alors notre Église, notre assemblée avec le temps, a tourné le dos au chef de l'Église, chef suprême de l'Église, à savoir Jésus. Ou alors notre Église a tourné le dos aux enseignements, aux doctrines fondamentales sur lesquelles elle reposait autrefois, pour devenir un lieu gangréné par le mal, un lieu où la vie de Dieu est absente. Et quand la vie de Dieu n'est pas quelque part, laissez-moi vous dire une chose, c'est la vie de l'autre, la vie de l'ennemi qui est là. Car la nature a horreur du vide, non seulement la nature physique, mais également la nature spirituelle. Quand il y a un vide quelque part, il doit être comblé. Et s'il n'est pas comblé par Dieu lui-même, croyez-moi, il le sera par l'adversaire de nos âmes. Oui, dans ce temps de séduction, dans ce temps d'égarement, où l'ennemi essaye de distraire l'Église par des faux enseignements, où l'ennemi a séduit, a envoûté certains pasteurs, certains hommes d'Église, pour en faire des acolytes du diable. Dans ce temps, mes amis, où la séduction est partout, il est plus que temps que nous puissions nous questionner et questionner notre Église. Il est plus que temps de soumettre notre assemblée, mes amis, à la lumière de la parole de Dieu, de faire une sorte de radiographie morale et spirituelle pour voir si la radio, la photographie de notre Église reflète la réalité biblique. Car il y va de notre épanouissement personnel. L'Église. Et la fois dernière, nous nous sommes posé la question quant à la définition, quant à la signification de l'Église. Ce mot-là ne nous vient pas ou ne vient pas de nos cultures. C'est un mot que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il est donc important que nous nous tournions vers la parole pour comprendre le sens, pour comprendre la signification de cette réalité spirituelle qui est dans l'espace et dans le temps, pour la comprendre et savoir ce qu'elle est. Que signifie donc le mot « Église » ? Nous l'avons souligné, mes amis, cette question est d'une importance vitale, capitale, cardinale. Car avec le temps, alors que l'Église poursuit sa marche dans l'espace et dans le temps, avec le temps, sous la séduction, sous l'influence du monde, confrontée à toutes sortes de crises, mes amis, morales et spirituelles, ce mot « Église » a fini par être complètement écrémé, vidé de sa substance originelle, complètement vidé de son sens biblique. Étant donné que ce mot est un mot biblique, ou du moins un mot qui exprime une réalité biblique spirituelle, il était donc important, il est encore important, de nous tourner vers son sens étymologique. Quand le Seigneur a parlé de l'Église, quel mot a-t-il utilisé et qui finalement a été transcrit en français par Église ? Bien, nous l'avons vu, et je vais revenir très rapidement. Le sens étymologique, l'origine du mot, si vous voulez, eh bien, le mot « Église » nous vient du grec « ecclésia ». Et dans ce mot « ecclésia », nous trouvons premièrement le préfixe « ec » qu'on trouve même en latin, « ec », qui veut dire « hors de », qui signifie « hors de ». Et puis ensuite, il y a le radical « ecclésia », qui est donc la forme passive du verbe « appeler ». En d'autres mots, « être appelé ». Et nous arrivons ainsi à la signification, c'est que le mot « église » ou « ecclésia » veut dire « appeler hors de ». Gloire au Seigneur. C'est donc une réalité qui est composée d'hommes et de femmes qui ont été appelés hors de quelque chose. Qui a été appelé ou qui ont été appelés à sortir d'une réalité pour entrer dans une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité, mes amis, est appelée l'Église. Et de cette définition, nous avons souligné trois vérités importantes. Trois vérités. Et je reviens là-dessus parce que aujourd'hui, tout le monde pense que la qualité ou le statut des chrétiens se transmet de manière religieuse, se transmet de manière génétique, pas du tout. Première vérité, appelé hors de. Il y a donc un appel, il y a donc une vocation. Donc, ceux qui sont dans l'Église, l'Église de Jésus-Christ, sont des hommes et des femmes qui ont été appelés. Appelés individuellement. Et c'est ça d'ailleurs la différence fondamentale entre le peuple de l'ancienne alliance, c'est-à-dire Israël, et le peuple de la nouvelle alliance, à savoir l'Église. Une vocation, un appel. Mais qui appelle? Est-ce une organisation religieuse qui appelle, qui demande aux gens, venez? Pas du tout. C'est Dieu qui appelle. Car Romains 8, 30 nous le dit, ceux qu'il a appelés, ceux que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés. Donc on ne peut pas atterrir dans l'Église par hasard. Il faut avoir entendu l'appel du Seigneur. Il faut avoir répondu favorablement à cet appel pour enfin faire partie de cette communauté des hommes et des femmes appelés hors de. Gloire au Seigneur. Voilà la première chose. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est ni un évêque, ni un archevêque, ni un, une religion, un prophète? Pas du tout. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes sont prêts à mourir pour leur prophète. Ils sont prêts à mourir pour leur chef religieux. Beaucoup aujourd'hui ont atterri dans des églises attirés par le prophète, attirés par je ne sais quoi. Mais attention, dans la vraie église, l'église de Jésus-Christ, celui qui nous est révélé comme étant son corps, dont il est la tête, celle qui est la maison, l'édifice de Dieu, dans cette église-là, on n'y atterrit pas par hasard. On n'y entre pas par hasard. De manière religieuse, pas du tout. Il faut entendre un appel. Il faut répondre à cet appel. Gloire à Dieu. Et comment Dieu appelle-t-il? Eh bien, par l'annonce et la proclamation de l'évangile. Dieu attire tout homme à lui par l'évangile. C'est un message unique et singulier qui n'a rien à voir avec tous les discours religieux, car l'évangile est plus qu'un message. L'évangile, c'est plus qu'un but à atteindre. L'évangile, c'est plus qu'un objectif ou un défi à relever. L'évangile, c'est une personne à recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés de la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont entendu son appel. Ils ont répondu favorablement à l'appel. Cela veut dire qu'on ne peut pas être membre du corps du Christ par hasard. Non, ce n'est pas parce que vous avez été dans un séminaire, dans une école biblique, ce n'est pas parce que vous fréquentez une assemblée, parce que vous chantez, vous parlez même en langue, que vous devenez automatiquement membre du corps du Christ. Il faut avoir répondu à l'appel. Et cet appel, c'est Dieu qui nous l'adresse. Mes amis, il est important. Prêchez ce message dans ce temps de séduction où les gens courent après les hommes, où les gens cherchent à se vouer à tel ou tel autre saint. Prêchez ce message où les gens sont prêts à mourir pour leur prophète. Prêchez ce message. Jésus seul sauve. La deuxième vérité, après la vocation, l'appel. Appelé hors d'eux. Ah. Ceux qui l'appellent sont dans une réalité spirituelle quelconque. Hors de quoi? Dieu appelle hors de quoi? Et là aussi, c'est la parole. Comme je vous l'avais dit, mes amis, si nous voulons comprendre la nature, si nous voulons comprendre, mes amis, ce qu'est l'Église de Jésus-Christ, nous devons aller à la seule école qui est capable de nous communiquer la vraie image, la vraie vision, la vraie compréhension de ce qu'est l'Église. Cette école, c'est l'école de la parole de Dieu. C'est l'école des saintes Écritures. Aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, à travers les âges, l'ennemi est arrivé à séduire, à faire lever certaines personnes, à leur donner un certain charisme pour parler, pour entraîner des foules, subjuguer des masses et les entraîner à leur suite. Mais nous n'avons pas besoin d'un prophète si grand soit-il. Nous avons besoin de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 2 Corinthiens 6, verset 17. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » On doit sortir d'une réalité. On doit se séparer d'une réalité. En d'autres mots, on doit partir hors de cette réalité pour entrer dans une nouvelle réalité. 2 Corinthiens 6, verset 17. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Et puis Actes 26, verset 8, c'était le message du Seigneur à Paul, la mission de Paul. Il dit, afin qu'il se tourne, qu'il tourne des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. On sort du monde, cette réalité terrible qui est sous l'influence, sous la commande du diable. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean, Le monde entier gît dans le malin. Le monde entier est couché, mes amis, dans le diable. Donc, nous naissons dans le péché, nous grandissons dans le péché, nous vivons dans le péché. Nous sommes donc du monde. Nous sommes sous le pouvoir de Satan. Et le Seigneur dit à Paul, et il dit à quiconque a reçu ce message, d'aller prêcher pour libérer les gens du pouvoir des ténèbres, du pouvoir de Satan, et les emmener dans cette réalité qui s'appelle l'Église. Et enfin, la troisième vérité, très rapidement, ce que Dieu a appelé à sortir du monde, ce que Dieu a appelé à sortir de l'emprise du diable, du pouvoir de Satan, du royaume de Satan, pour entrer dans le royaume de Dieu, royaume de lumière, eh bien ceux-là sont donc appelés à se rassembler et constituent ainsi l'Ecclésia ou l'Église. Alléluia. C'est ainsi que Paul pouvait dire aux Corinthiens, Corinthiens chapitre 14, verset 26, « Lorsque vous vous assemblez, que tout se fasse pour l'édification. » Amen. Qu'est-ce donc l'Église ? Très rapidement. L'Église, c'est à la fois l'ensemble et le rassemblement des personnes, hommes et femmes, appelés hors du monde, appelés hors des ténèbres et introduites dans une nouvelle réalité que la parole de Dieu appelle l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette Église fait partie du royaume de Dieu. Alléluia. En d'autres mots, dans cette dispensation, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu si vous n'êtes pas membre du corps du Christ, si vous n'êtes pas introduit dans l'Église qui est son corps, l'Église qui est, dont il est la tête, qui est sa maison. C'est donc l'ensemble, je parle de l'Église, l'ensemble de tous ceux qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance, ceux qui ont été régénérés par l'action du Saint-Esprit après avoir rencontré personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tout commence par là. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez commencé à être actif dans l'Église que du coup, vous devenez membre du corps du Christ. Le corps mystique du Christ, pas du tout. Il y a une expérience, il y a un appel auquel il faut répondre. Il y a une vocation qu'il faut recevoir. Alors cette Église-là, lorsque nous regardons au Nouveau Testament, nous voyons qu'elle apparaît sous deux formes. Donc, le mot Église revêt deux sens. Premier sens, c'est l'Église universelle. Oh, alléluia. L'Église universelle, qui est le corps du Christ dont il est la tête. Cette Église, personne ne la connaît, ne peut dire exactement, je connais le nombre de tous ceux qui font partie du corps du Christ sur cette terre. Voyez-vous? Donc, le premier sens, c'est l'Église universelle. Éphésiens 1, verset 22 nous le dit, il a tout mis, donc Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds du Seigneur Jésus, et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le corps du Christ, la plénitude. Le même Paul dans Éphésiens chapitre 5 verset 23, il est dit, Christ est le chef de l'Église. Et au verset 25, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Donc le mot Église ici revêt un sens universel. L'ensemble de toutes ces personnes qui ont entendu le message de l'Évangile, le message de la Bonne Nouvelle, l'ont reçu et Ensuite, après avoir reçu ce message, on fait l'expérience de la nouvelle naissance, et par la nouvelle naissance, ils sont entrés dans le corps du Christ, à savoir dans l'Église, dont il est le chef, dont il est la tête. Alléluia. Ça, c'est donc l'Église universelle. Je bâtirai mon Église. Il n'est pas en train de bâtir un bâtiment. Il n'est pas en train de construire une cathédrale. Et comme nous le verrons, le mot Église n'a jamais désigné un édifice dans la parole de Dieu. Donc voilà le premier sens. C'est l'Église universelle, dont il est la tête. C'est le corps du Christ. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont été introduits dans ce corps-là, sont des cellules vivantes qui constituent les membres du corps du Christ. Alléluia. C'est par Christ qu'ils reçoivent la vie. L'Esprit habite en eux. Le Saint-Esprit leur a communiqué une nature d'en haut. Désormais, leurs affections sont placées sur les choses d'en haut. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ils sont sous l'autorité de la parole de Dieu. Ils ont un seul maître, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et enfin, le deuxième sens. Et c'est le sens qui nous intéresse. L'Église a le sens aussi local. L'Église locale, comme c'est le cas pour le centre évangélique La Borne-Huppen, comme c'est le cas pour tant d'autres églises dans la ville, à travers le monde, de regroupement de chrétiens, regroupement de ceux et de celles qui ont rencontré les seigneurs, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui se retrouvent ensemble. Eh bien là, ils constituent l'Église. Alléluia. L'Église locale. C'est donc le deuxième sens et le plus fréquent dans le Nouveau Testament. Juste quelques exemples pour que nous comprenions. À ce moment-là, nous comprendrons que lorsque nous parlons de l'Église de Jésus, Bethel, maison de Dieu, ou Bethaven, maison de néant, maison de tromperie, eh bien, il ne s'agit pas de l'Église universelle, car l'Église universelle, c'est le corps du Christ. Le mal ne peut pas entrer dans le corps du Christ. Voyez. Il est donc question de l'Église locale. Actes chapitre 13, verset 1er, il est dit ceci, « Il y avait dans l'Église qui était en Antioche. » Vous voyez ici, l'Église est déterminée. L'Église est localisée, quelque part, à Antioche. Il y avait donc dans cette Église-là des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, etc. Donc, il s'agit d'une Église locale qui était à Antioche. Et dans cette Église locale, la Bible nous dit qu'il y avait des prophètes, qu'il y avait des docteurs, etc. Et d'ailleurs, si vous lisez la suite, pendant qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Donc, c'est un rassemblement au nom de Jésus, rassemblement de ceux et de celles qui ont Jésus dans leur cœur, qui se retrouvent pour l'adorer, qui le retrouvent pour lui rendre un culte par le Saint-Esprit, qui se retrouvent pour s'encourager mutuellement, qui se retrouvent pour partager la parole de Dieu, pour s'édifier mutuellement. Eh bien, leur rassemblement s'appelle Église. Acte 15, verset 41, il est question de Paul où nous est dit, parcourant, Paul traversa la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Donc il y avait dans ces régions-là des églises, c'est-à-dire de regroupements. Et ces hommes et ces femmes qui appartenaient au Seigneur, qui étaient de véritables chrétiens, se retrouvaient. Et la Bible appelle leur lieu, ce regroupement-là, la Bible les appelle Église. Parcourant la Syrie et la Cilicie, Paul affermissait les Églises. Acte 16, verset 5, il nous est dit, les Églises devenaient plus fortes. Voyez, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jours. Ce sont donc des églises locales. Donc, en résumé, le mot Église désigne à la fois l'Église universelle, mais aussi le rassemblement local, comme c'est le cas aujourd'hui. Même des expressions plus larges, comme par exemple Église de Dieu ou le Temple de Dieu, se rapportent, peuvent se rapporter tantôt au sens universel, tantôt au sens local. Et par rapport donc à l'Église de Jésus-Christ, l'Église du Dieu vivant, nous trouvons dans la parole de Dieu plusieurs représentations. En d'autres mots, l'Église nous est révélée comme étant premièrement le peuple de Dieu. Ah. Donc on ne devient pas membre du peuple de Dieu par hasard, en suivant une religion, en devenant membre d'une congrégation chrétienne, en devenant membre d'une assemblée locale, pas du tout. L'Église, c'est une autre image que la parole de Dieu utilise. L'Église nous est présentée comme étant le peuple de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance. Il y a eu une première alliance, ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Et sous l'ancienne alliance, Israël était en bloc le peuple de Dieu. C'est très important. En bloc. Tous les Hébreux, nés d'Hébreux, et circoncis selon la loi de Moïse, faisaient automatiquement partie du peuple de Dieu. Et eux tous, mes amis, étaient au bénéfice des promesses et des privilèges qui étaient donc accordés au peuple. Un enfant juif qui naissait, eh bien, de par sa naissance, hébreu, né d'hébreu, et puis circoncis, si c'est pour un garçon, eh bien, devenait automatiquement membre du peuple de Dieu. Voilà. C'est donc une alliance en bloc. Vous voyez, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des tendances dans certains milieux de judaïser. Il y a des pasteurs, dans leur excès d'amour pour Israël, essayent de revenir aux choses que la parole de Dieu a combattues, des choses que les apôtres ont combattues concernant la judaïsation des chrétiens. Alors vous allez retrouver des pasteurs avec des châles, avec des calottes. Certains dans leurs assemblées utilisent le chauffard, cette corne de buffle, et ils sont vous pensez que l'ennemi va fuir parce que vous sonnez du chauffard. Cette période est révolue. Le voile a été déchiré. C'est une erreur de vouloir recoudre ce que Dieu a déchiré. L'ancienne alliance a été déclarée caduque. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Oh, alléluia. Cela est important. Et ce qui est nouveau avec la nouvelle alliance, dans l'Église et avec l'Église par rapport à Israël, c'est qu'on n'est pas introduit dans le peuple de Dieu par la naissance physique, mais plutôt par la nouvelle naissance. Voilà. Et c'est individuel. Autant dans l'ancienne alliance, eh bien, tout le peuple d'Israël faisait partie du peuple de Dieu, de par leur naissance en tant qu'hébreux, nés d'hébreux. Et ils jouissaient des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Ils jouissaient de tant de bienfaits. Et puis un jour, le Fils de Dieu est venu. L'ancienne alliance a été déclarée caduque. Elle concernait un peuple. C'était donc une alliance ethnique. Mais Dieu a tant aimé le monde. Tous les peuples, toutes les nations, l'alliance avec Israël n'était que la préfiguration de l'alliance que Dieu allait conclure, non pas avec un peuple, non pas avec une nation, mais avec tous les peuples. Ainsi, quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque confesse que Jésus est Seigneur, Quiconque reçoit Jésus, qu'il soit juif, qu'il soit arabe, qu'il soit congolais, qu'il soit rwandais, qu'il soit burundais, sud-africain, qu'il soit canadien, qu'il soit américain, quiconque croit est introduit dans cette nouvelle alliance. Et les juifs aujourd'hui ont besoin de croire en Yeshua, ont besoin de croire en Jésus pour être sauvés. L'ancienne alliance est passée. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Certes, les promesses qu'il avait faites à Abraham sont encore valables. Mais sur le plan spirituel, et c'est ça la singularité dans la nouvelle alliance, c'est une alliance spirituelle. Le juif, comme le païen, ont tous besoin de Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. De deux, et nous le verrons prochainement. Souvenez-vous donc ceci. Autrefois, c'est Paul qui parle. J'étais en Israël, nous étions dans une réunion, une sorte de conférence, et là j'ai entendu un pasteur défendre que les juifs n'ont pas besoin de repentance. J'ai dit, quoi? J'ai failli m'écrouler. Pas possible. Alors, Paul, était-il un juif? Je vous pose la question. Paul était-il un juif? Pierre était-il un juif? Jean était-il un juif? Pourquoi alors ont-ils tourné le dos au judaïsme pour croire en Jésus? Vous pensez que les choses ont changé? Non. Écoutez ce que Paul dit aux Éphésiens. C'est un texte que je n'ai pas donné, mais sur lequel je reviendrai la fois prochaine. À partir du chapitre 2 des Éphésiens, verset 11. Souvenez-vous donc de ceci. C'est important. Écoutez, il s'adresse aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Voilà. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Traités d'incirconcis par qui? Et les circoncis, c'était qui? Les juifs, hein? Ok, continuons. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, oui, privé du droit de cité en Israël. Ah oui, la loi était très claire, hein? Voyez, donc ce n'était que les promesses pour Israël. Étranger aux alliances de la promesse. Oui, les païens étaient exclus, hein? Il n'y avait que les descendants de Jacob, hein? D'Abraham, Jacob. Sans espérance et sans Dieu dans... Nous continuons. Vous étiez en ce temps-là sans espoir. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin dans le monde, esclaves du diable, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. 14. Car c'est lui notre paix. C'est un juif converti qui parle, hein? Qui a écrit l'épître aux Éphésiens? Paul. Quel a été son arrière-plan? Juif, hein? Ah. Car celui notre paix, lui qui de deux, c'est-à-dire d'un côté les païens, de l'autre côté les juifs, qui de deux n'en a fait en détruisant le mur de séparation? L'inimitié. Oh l'Église. Nous continuons. Il a dans sa chair, dans son corps, annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer, pas dans un bâtiment, pas dans une ville. Oh, ça c'est la cité de ceci. Oh, ça c'est la capitale, la nouvelle Jérusalem, je ne sais quoi. Pour créer en ça, avec les deux. Païen et un seul homme nouveau, en faisant la paix. Nous continuons. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul, par sa, en faisant mourir par elle l'iniquité. Très rapidement. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle. La paix à vous qui étiez loin. Vous les païens, les Éphésiens, vous étiez loin. Mais il est venu vous annoncer la paix. Christ est notre paix. Nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Il est venu vous annoncer comme une bonne nouvelle. La paix à vous qui étiez loin. Mais écoutez maintenant. Et la paix à ceux qui étaient, à savoir, et aussi ont besoin de Jésus. Nous continuons. Car, par lui, par qui? Pas une institution, pas un curé, pas un pasteur, pas un bishop, pas un ange, pas un archange, pas un saint béatifié, mais car par lui, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons les uns, c'est-à-dire les païens convertis, et les autres, les juifs convertis, par lui, nous avons accès auprès du Père dans... Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Il y avait des prosélytes qui avaient adhéré à la foi juive, qui venaient de passage à Jérusalem, qui repartaient. Mais vous n'êtes plus ces gens-là. Nous continuons, s'il vous plaît, pour terminer vite. Le texte. Mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, littéralement gens de la maison de Dieu. Oh, alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement, c'est-à-dire, et les chrétiens issus des païens, et les juifs devenus disciples de Jésus, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et avant de terminer, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, si vous avez un voisin juif, annoncez-lui l'évangile. Eh oui, l'Église. L'Église, mes amis, c'est ça la singularité de la nouvelle alliance. On y entre individuellement. Ce n'est plus en bloc, ce n'est plus une alliance ethnique, mais c'est une alliance spirituelle. Quand on répond à l'appel de Dieu, quand on quitte le monde après la repentance par le pouvoir du Saint-Esprit, on entre dans cette nouvelle alliance. On devient membre du peuple de Dieu. Une autre représentation, le temple, l'Église nous est présentée comme étant le temple de Dieu, comme étant le corps mystique du Christ, comme étant l'épouse du Christ, etc. Et donc, de toutes ces représentations, c'est l'image de l'Église comme étant la maison de Dieu qui nous intéresse dans cette série d'enseignements. Gloire à Dieu. Et il faut noter par ailleurs, je l'ai souligné, il faut noter par ailleurs que dans le Nouveau Testament, le mot Église ne désigne jamais un édifice. D'ailleurs, les premiers chrétiens n'en possédaient pas. Ils se réunissaient dans des maisons. Voilà. Voilà. Telle famille accueillait une église chez lui, chez elle. Alors le sens qui nous intéresse, c'est donc celui de l'église locale, du rassemblement local. Alors cette église locale est-elle Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, ou alors cette église locale, ce rassemblement, est-il, mes amis, est-il Bethaven, c'est-à-dire la maison des néants, la maison de corruption, la maison de tromperie, la maison de néant. Voyez-vous? Eh bien, nous l'avons vu et nous terminons par là. L'Église de Dieu est appelée à être la maison de Dieu, avec tout cela implique. Et Paul dit à Timothée, il dit, si je tarde, tu sauras ainsi comment se conduire, comment se comporter dans la maison de Dieu qui est l'église du Seigneur. Donc il y a un comportement à voir, il y a une conduite à voir quand on fait partie de la maison de Dieu. Oh, alléluia. On ne peut pas marcher n'importe comment. On ne peut pas se conduire n'importe comment. C'est la maison du Dieu vivant. C'est la colonne et l'appui de la... Et si donc notre assemblée, ton assemblée, mon frère et ma sœur, ton église, n'est pas la colonne et l'appui de la vérité, alors elle est la colonne et l'appui de la tromperie. Et par conséquent, elle est un véritable bétaven. Ne laissez pas vos sentiments vous distraire. Vous y allez, oh, ça me fait du bien, c'est l'église de ma tante. Vous savez, ma tante a payé mes études à l'Unikin, et donc pour lui faire plaisir, j'y vais, et puis je me sens bien. On chante bien, et puis il y a une atmosphère que j'aime beaucoup, etc. Et puis je m'y plais. Beaucoup agissent ainsi, attention. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon frère, si tu ne fais pas partie de l'église du Christ, si tu n'es pas le temple de Dieu, tu n'es pas le sanctuaire qu'habite le Saint-Esprit, tu es perdu. Tu as beau être membre de l'église de ta tante ou de l'oncle de ton cousin, mais tu restes néanmoins hors de la maison de Dieu. Et quand on n'est pas membre du peuple de Dieu, quand on n'est pas membre de la famille de Dieu, on est membre de la famille de l'autre. Paul recourt à l'analogie de la maison pour parler de l'église. Et puis il enchaîne dans cet ordre d'idées, il enchaîne avec une comparaison d'ordre architectural dans laquelle il présente l'église comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Mes amis, l'église, nos rassemblements doivent être des bétels, c'est-à-dire la maison de Dieu, c'est-à-dire la colonne et l'appui de la vérité. Une église Bethel, c'est une église qui est la maison du Dieu vivant. Et Dieu étant saint, c'est donc une église qui enseigne la sainteté, qui proclame la sainteté, qui encourage les gens à marcher dans la sainteté, dans la crainte de son nom. Voyez-vous ? Et quand elle n'est pas la colonne et l'appui de la vérité, elle devient, mes amis, la poutre et la charpente du mensonge et de la tromperie. Et puisque l'Église est appelée être la colonne et l'appui de la vérité, elle doit donc proclamer, défendre la vérité. Et cette vérité n'est pas un concept philosophique, n'est pas un concept idéologique, théologique. La vérité est une personne. Celui qui a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Alléluia. Et pour que l'Église soit vraiment la colonne et l'appui de la vérité, il faut qu'elle repose sur celui qui se révèle dans sa parole comme étant la vérité. Il faut qu'elle se soumise à l'autorité de la parole de Dieu, qui est donc la vérité. Alléluia. À ce moment-là, les gens viendront liés par le mensonge et repartiraient délivrés par la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Donc Bethel, c'est donc une maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité, où les esclaves viennent, où les prisonniers du diable viennent et repartent complètement libres. Oh, alléluia. Et ce matin, le Seigneur est là. Ce matin, tu peux le rencontrer. Ce matin, tu peux être introduit dans la nouvelle alliance. C'est une alliance individuelle. Ce matin, tu peux faire partie des gens de la maison de Dieu. Ce matin, tu peux questionner ton église et voir si elle est la colonne et l'appui de la vérité. Si elle repose entièrement, totalement, sur la personne de Jésus, bâti sur elle, sur comment sur le Seigneur, qui est la fondation, qui est le fondement, et puis édifié par la doctrine des apôtres, pas autre chose. Mais aujourd'hui, regardez tous ces enseignements, et je terminerai par là. On distrait les gens, on met beaucoup d'accent sur des futilités. Beaucoup de pasteurs n'ayant plus rien à donner, se sont transformés en moralistes. Ah, ne venez pas, ne mettez pas de perruque. Vous pensez que Dieu passe son temps à regarder ce qu'il y a sur la tête des femmes? Il regarde au cœur. Quelqu'un peut mettre de perruque et ne pas mettre de perruque, mais ce qui intéresse Dieu, c'est la condition du cœur. La Bible ne nous dit pas veille sur ta tête, mais plutôt veille sur ton cœur. Car de ton cœur, la source de la vie, alléluia. Certes, nous devons avoir un comportement. Il n'est pas du tout question de se transformer en bouffon, en clown, voyez, au point de distraire les gens. Il y a un certain comportement, il y a aussi une certaine manière d'être. Mais les gens n'ont plus rien enseigné. Alors ils s'acharnent. Il ne faut plus mettre la cravate noire. Le noir, c'est le symbole du diable. Vous pensez que Dieu se préoccupe de ça? Les gens ont besoin d'entendre ce que Jésus attend d'eux. Acclamons le nom du Seigneur. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Aide-nous, Seigneur, à faire de nos assemblées un véritable Bethel pour toi, une maison qui est fondée sur toi, qui est la colonne et l'appui de la vérité, parce que reposons sur toi la vérité, parce que, Seigneur, en tirant de toi, Seigneur, la vie dont elle a besoin. Ô Dieu, aide-nous à rester attachés à toi, à ne pas laisser le mensonge, la tromperie nous envahir. Ô Seigneur, merci. Merci de nous aider et d'aider toutes les assemblées à rechercher ce contact, cette communion avec toi, à s'asseoir sur toi et sur toi seul. Seigneur, à se laisser enseigner par ta parole et ta parole seule. Et quand bien même il y aurait des visions, des prophéties, que ces visions et ces prophéties confirment ce qu'il y a dans ta parole. Car tu ne peux pas te contredire. Ô Dieu, tu ne peux pas nous dire une chose dans ta parole et en même temps la contredire par des prophéties subjectives. Oui, aide-nous, tout en restant vigilants, à ne pas non plus basculer dans l'autre extrême, où on jetterait tout, on rejetterait tout. Mais garde-nous fidèles à toi. Aide-nous à faire de nos assemblées des véritables Bethel du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité.